Bonjour les frères et sœurs, vous allez bien tous? Gloire à Dieu. Hier, nous sommes allés, Michou, Mélodie, Lucas, Élise et moi, avec le petit Timothy, nous sommes allés dans sur un site romain qui est tout près de Évreux, qui s'appelle Gisacum, c'est ça? Pardon? La vieille Évreux, c'est ça. Et nous étions invités par Marcino, vous savez, le sculpteur qui a fait le blason de notre famille, et un tailleur de pierre, un homme que j'aime beaucoup, c'est un gentil couple, des gens charmants. Ils nous ont invités parce qu'ils avaient là-bas un stand, et c'était intéressant. À peine arrivé, il me dit « Ah, bonjour Michel, comment vas-tu ? » Très bien. Et il y a un monsieur qui était là, il dit « Michel, un nom hébreu interdit par l'Église catholique en 300... » Et il se lance dans une histoire. Un homme extraordinairement intéressant. Et au bout d'un moment, d'après ce qu'il disait, je me suis aperçu que c'est un homme qui est né de nouveau, véritablement, mais qui n'a pas passé par tout le système de l'Église, qui a un contact personnel avec Jésus-Christ, mais qui est très instruit au sujet des choses de Dieu. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en relation avec ce que nous croyons, nous autres. Et c'était pour moi très difficile d'en placer une parce qu'il a un débit terrible et alors une mémoire fantastique. Il vous cite des noms, des dates, des versets avec les références. C'est quelqu'un d'extraordinaire, jeune, il n'est pas aussi vieux que moi. Voilà, donc on a commencé une correspondance sur Internet. Et puis il m'a dit, allez voir, vous tapez sur Google, vous tapez le viol de l'Europe. J'ai fait ça. Et je suis tombé sur un film qui dure 1h15, je crois, et je vous le recommande. Vous qui m'écoutez là sur Internet, tapez sur Google le viol de l'Europe et vous allez tomber sur un film, il est en français. C'est un reportage très intéressant, très, très, très intéressant. Il faut vraiment voir ça. Vous mettez une heure et quart à part, vous bouclez votre téléphone, vous restez calme et vous regardez ça et vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est très intéressant et ça correspond avec tout ce qu'on croit, tout ce qu'on dit, tout ce que je vous chante depuis des années. Mais là, c'est résumé vraiment et puis alors avec des informations qui, moi-même, j'étais époustouflé. Il y a des choses vraiment que j'ignorais, des choses vraiment étonnantes. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je voulais vous raconter ça aussi parce que c'est formidable pour moi. Vous savez, vous rappelez qu'au début de l'année, Dieu nous avait dit par une prophétie qu'on allait faire des rencontres. Eh bien, je crois que ça fait partie de ces rencontres. Il y a eu Séraphine, hein, c'est comme un ange que Dieu nous a envoyé. Puis là, maintenant, il y a cet homme, il s'appelle Guy. Guy, je ne sais pas comment, mais c'est Guy. Voilà. Eh bien, que Dieu le bénisse ainsi que toute sa famille. Et puis que Dieu vous bénisse aussi. Ce matin, on va lire Jacques, chapitre 1, versets 16-17. Merci Alain aussi pour le témoignage que tu nous as donné, c'est formidable, Dieu répond à nos prières. Voyez, cet homme qui devait rester 30 jours dans le coma, bien déjà au bout de 7 jours, ils sont en train de le sortir parce que toutes les choses se passent bien, c'est merveilleux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu permette qu'il puisse se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, il y avait 10 lépreux qui ont été guéris, il n'y en a qu'un qui est venu dire merci. On prie toujours pour que ceux pour qui on prie soient ceux qui viennent dire merci, pas à nous, mais à Jésus. Amen, parce que toute la gloire revient à Jésus. En tout cas, on est très contents. Un homme qui brûlait à 80%, c'est terrible. Eh bien, merci Seigneur, si que Dieu ait étendu sa main sur lui. Jacques 1, 16, 17. Ne vous y trompez pas, parce qu'il y en a qui se trompent. Alors il dit, ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Je
vais vous asseoir.
Alors, ça y est, je vais encore être taxé d'intellectuel avec ce que je vais vous apporter ce matin, mais moi, je refuse de commettre un suicide intellectuel. Alors, je vais aller en profondeur dans ces choses et je vous demande d'être attentif et de chercher à comprendre avec le secours du Saint-Esprit. Nous avons prié, et bien maintenant, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Amen. Pour que nous puissions bien comprendre. Il y a une chose que le Saint-Esprit veut que nous sachions, et ce savoir, il aide ceux qui le connaissent. Les hommes se trompent la plupart du temps au sujet de cela. Écoutez bien, il y a une différence entre votre condition de vie et votre vie. C'est deux choses très différentes. Vos conditions de vie actuelles, bon, on sait bien, c'est le résultat des choses qui se sont produites dans le passé, et alors il en reste encore un petit peu, et ça fait que vous avez une situation actuelle qui est la vôtre, et suivant ce que sont ces conditions, il se peut que vous soyez attristé, abattu, dans le moment présent. D'accord ? Je voudrais vous exhorter à faire ce que la Bible dit de faire. Vous avez vu ce texte, il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, deux points. Et il dit ensuite, toute excellence, etc., etc., etc. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Si on se trompe là-dessus, on est à côté de nos pompes, et alors c'est évident que c'est difficile de marcher, c'est-à-dire c'est difficile de progresser, c'est difficile d'être sur ce chemin qui est Jésus d'une façon correcte. La Bible nous dit de détourner nos regards des conditions de vie pendant un instant et de prêter attention à notre vie. Beaucoup sont incapables de voir la différence des conditions de vie ou notre vie. Écoutez bien ça. Vos conditions de vie, elles existent dans un cadre que je vais appeler le cadre temporel. Et votre vie, c'est l'instant présent éternel. Il n'y a pas de bord, il n'y a pas de cadre. En vérité, il n'y a que votre vie qui est réelle parce que votre vie, elle est éternelle, alors que vos conditions de vie, elles, sont temporelles. Ça finira tôt ou tard. Ça a commencé, ça finira. Votre vie, elle, ne finira jamais. Donc ne mélangez pas. Ne dites pas, oh ma vie, non, 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 non. C'est vos conditions de vie qui peuvent être difficiles, mais votre vie, elle, c'est parfait. Il nous faut trouver le passage étroit qui conduit à la vie. Ce passage, c'est ce qui s'appelle le moment présent. Ça, c'est dans les termes, la terminologie que nous employons aujourd'hui. Mais si vous allez du temps de Moïse, il aurait plutôt dit, ce passage s'appelle « je suis ». C'est-à-dire, c'est vraiment être là, être. C'est tout, être. Dieu est. La Bible dit, Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, pour l'éternité. On peut dire, Jésus est toujours le même dans le passé, maintenant et dans le futur. Hébreux 13, 8, n'est-ce pas? Il est. Il ne change pas. Il est la vie, sans différence, toujours la même, sans ombre de variation. Jésus, il est le passage, il est votre passage, il est la porte qui conduit justement dans la vie. Et c'est en lui que nous devons aller, dans la vie que nous devons aller. C'est, il est la porte, mais il est la vie aussi. Il est le présent, il est le passé, il est le futur, il est la vie, il est la porte, il est tout. Il remplit tout en tout. Et trouver Jésus, trouver cette porte, trouver le chemin qui est derrière cette porte, c'est trouver ce point infime qui est le moment présent, le « je suis », le « être présent ». Alors il faut ramener notre vie à Jésus-Christ, ramener notre vie en Jésus-Christ, et non pas baigner et nous vautrer dans les conditions actuelles de la vie qui sont des fois une véritable mélasse. Il faut ramener notre vie en Jésus, c'est-à-dire dans ce qui existe réellement, dans le « je suis », dans le présent, dans le maintenant, dans un point infime qui est maintenant. Ta condition de vie, elle est probablement problématique, c'est le cas pour tout le monde, plus ou moins fort, à des moments différents, mais c'est toujours plus ou moins problématique. Mais essayez de voir si vous avez un problème en ce moment même, pas dans 5 minutes, pas dans 10 minutes, pas demain, maintenant, là, là, maintenant, est-ce que vous avez un problème? Vous savez, quand on est envahi par les problèmes, il ne reste plus de place pour la nouveauté, c'est-à-dire il ne reste plus de place pour les solutions, parce qu'on est envahi dans le problème, voilà. Alors ce que la Bible nous recommande de faire, c'est de faire de l'ordre, de faire de l'ordre. Et quand vous ferez de l'ordre, vous trouverez votre vie qui se cache derrière les conditions de vie. C'est votre vie qui est importante, ce n'est pas les conditions de vie. utilisez pleinement vos cinq sens. Soyez véritablement là, présent. C'est pas facile, hein? Il y en a qui n'y arrivent jamais à faire ça. Là où vous êtes, et puis regardez autour de vous, simplement, sans interpréter. Vous regardez sans interpréter. Vous voyez là la lumière, vous voyez la lumière, vous voyez la lumière, vous voyez les formes, vous voyez les couleurs, vous voyez les textures. Alors, soyez conscient de la présence silencieuse de chaque objet. Vous êtes conscient de la présence de ces objets ? Soyez conscient de l'espace qui permet à ces objets de pouvoir exister, d'être. Soyez conscient, écoutez les bruits sans les juger, écoutez-les. Soyez les spectateurs de cela. Et entendez ce silence qui peut être habité pour que ces objets qui font du bruit puissent s'animer. Et puis touchez quelque chose, n'importe quoi, vous le touchez, puis vous reconnaissez son essence. Tiens, ça c'est du bois, tiens, ça c'est du tissu, tiens, ça c'est de la peau, tiens, ça c'est du verre. Et puis observez le rythme de votre respiration, et puis sentez l'air qui entre dans vos poumons et l'air qui sort de vos poumons. Sentez l'énergie de vie qui est en vous, qui coule en vous, qui vous traverse. Laissez chaque chose être, celles qui sont au-dedans de vous, celles qui sont à l'extérieur de vous. Reconnaissez en chaque chose son être là. Plongez là-dedans, immergez-vous là-dedans. Soyez conscient. Mes frères et sœurs, quand je fais ça, je laisse derrière moi le monde du temps. C'est un peu comme si le temps s'arrêtait. Quand je fais ça, alors je sors de la folie de mon mental qui est toujours agité et qui me vole mon énergie vitale. Si vous faites ça, vous allez sortir du rêve du temps. Le temps n'est pas une réalité, c'est une création pour un temps. Vous allez sortir du rêve qui est le temps pour entrer dans le présent, dans le « je suis ». Si vous faites cela, vous allez entrer en communion avec ce qui existe vraiment. Pour entrer en communion avec celui qui est tout en tout et en tous. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Est-ce que vos problèmes ont disparu parce que vous avez fait ça? Est-ce qu'ils sont résolus parce que vous avez fait ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train, en faisant cela, de fuir vos problèmes, vos difficultés pour un moment? Pour les retrouver après? Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Même quand tout est bien, de toute façon, même quand tout va bien, notre mental nous dit « Oui, mais il ne fait pas ça, votre mental ?» Il vient toujours tout gâcher. Alors, je ne vous parle pas ce matin de comment résoudre vos problèmes. Je vous parle ce matin de prendre conscience qu'il n'y a pas de problème. Votre vie n'a pas de problème. Il n'y a pas de condamnation contre votre vie. Il n'y a pas d'agression contre votre vie. Il y a seulement des situations momentanées dont il va falloir s'occuper dans les moments présents et surtout dans celui-là. Mais c'est des conditions momentanées. Acceptez que ces choses-là font partie de l'être là en ce moment. Jusqu'à ce qu'elle change, ou jusqu'à ce que vous puissiez vraiment vous en occuper. Il y a des choses, on ne peut pas s'en occuper. On est obligé de subir les choses. Or, plutôt que de les subir en murmurant et tout, réfugions-nous dans la forteresse. Jésus a dit qu'il était notre forteresse. On se réfugie en lui, à l'abri de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous faire? Qui peut me nuire? Qu'est-ce qui peut me nuire? Que peut me faire un homme? Même les serpents, les scorpions ne peuvent rien. Si je suis en Christ. Si je suis dans le « je suis », si je suis dans le moment présent, conscient d'y être. Les problèmes, ils ont besoin du temps pour se perpétuer. Ils ne peuvent pas, comme nous, ils ne peuvent pas survivre dans la réalité de l'instant présent, ils ne peuvent pas. En Jésus, il n'y a rien de mauvais qui peut entrer, rien. Et quand vous êtes en Jésus, qui est la vie, eh bien, il n'y a rien de mal en vous. C'est pourquoi il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucun problème ne peut venir s'installer. Aucun problème ne peut rester. Parce que tout, absolument tout, passe. Il n'y a que lui qui est éternel. Et si vous êtes en lui, alors vous êtes aussi éternel que lui. Votre situation de vie ne l'est pas éternelle. Être éternel, c'est ne pas avoir de commencement, c'est ne pas avoir de fin. Les situations de votre vie, elles ont eu un commencement, elles auront une fin. Elles ne sont pas éternelles. C'est vrai. C'est vrai. Rien de ce qui ressemble à du passé, rien de ce qui ressemble à du futur, rien de tout cela n'existe, il n'y a que le présent, ce que nous appelons la présence de Dieu. La présence de Dieu. Quand les gens disent « je sens la présence de Dieu », ils ont réussi à être conscients de sa présence. Ce n'est pas que Dieu est tout d'un coup présent, puis avant il n'y était pas. Non, c'est que eux, tout d'un coup, ils se sont rendus conscients de sa présence. Fixez votre attention sur la présence de Dieu, sur Jésus qui est éternel, sur le « je suis ». Il a dit « je suis ». Et puis, si vous le faites, dites-moi alors quel est votre problème. C'est impossible d'avoir un problème lorsque notre attention est totalement dans le présent, dans le Seigneur éternel, dans celui qui ne peut pas y avoir d'ombre de variation. Si vous entrez en lui, c'est impossible d'y entrer avec vos problèmes. Jésus n'a pas de problème. Quelqu'un a dit un jour, tu n'as pas de problème, tu es un problème. Nous sommes un problème si nous ne sommes pas vivants, si nous ne sommes pas je suis, si nous n'avons pas conscience d'être d'origine divine, nous sommes un problème pour nous-mêmes et pour les autres. Il est impossible d'avoir un problème lorsque notre attention est fixée sur le Seigneur Jésus. Quand vous êtes en Christ, vous êtes à l'abri des variations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri des variations et même vous êtes à l'abri des ombres des variations. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Vous voyez pourquoi il est important de méditer. Les gens ne veulent pas faire ça. Ils préfèrent s'étourdir dans autre chose. Alors, nous sommes en Christ, ça c'est une réalité. Et ce qu'on vit ici-bas, c'est une apparence sur laquelle nous avons, nous autres les chrétiens, un pouvoir par le Saint-Esprit qui nous a été donné et par les actions de foi que nous pouvons produire. Maintenant, la première action de foi à faire, c'est de se rendre conscient de notre position en Christ. Parce que c'est ce que la Bible enseigne. Mais elle l'enseigne à ceux qui veulent le comprendre. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Actes 17, 28, qu'il nous donne le mouvement et l'être. Il nous le donne ou il ne nous le donne pas ? Il y a des gens qui ne savent pas que c'est Dieu qui leur donne le mouvement et l'être. Ne le sachant pas, ben ils sont tout le temps dans l'hésitation et ils sont toujours pleins de variations. En lui, nous avons le mouvement et l'être. En lui, qui est hors du temps, mais qui vit en nous, dans le temps. Alors, c'est juste là que se trouve la difficulté. La difficulté, elle se trouve dans un point infime, aussi fin, même plus fin que le bout d'une petite aiguille, toute petite, toute fine, entre le « lui en moi » et « moi en lui ». Là, il y a une petite, là, il y a un petit truc, il y a un tout petit espace-temps qui est infime, mais qui tellement infime que la plupart des gens glissent dessus, ne voient rien du tout. C'est une difficulté qui est insurmontable si on ne se rend pas conscient de la vérité écrite. Vous pouvez dire « je suis en lui, il est en moi » et que ça n'ait aucune influence dans votre vie parce que c'est simplement une connaissance intellectuelle. Nous sommes en lui hors du temps, nous sommes en lui dans l'éternité, nous sommes en lui assis dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 1 verset 3, nous sommes en lui, hors du temps, ça c'est la vie. Et il est en nous, dans l'espace-temps, Il est avec nous, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre nous, il est avec nous, en nous, dans l'espace-temps. Mais lui en nous, c'est quelque chose de passager, ça ne va pas durer. Parce qu'un jour, nous serons semblables à lui. Là, il ne sera plus en nous et nous en lui. Il n'y aura plus cette petite chose, ce petit point qui nous embête tant. Nous serons débarrassés de la limitation. Mais pour le moment, il est en nous et il se limite dans notre chair pour venir à notre aide, pour nous secourir, pour nous inspirer, pour nous donner le vouloir et le faire, pour nous donner c'est la possibilité d'agir avec la foi. C'est pourquoi je dis le libre arbitre, c'est l'illusion de ceux qui n'ont pas le pouvoir de la foi. Et alors, en nous, il nous instruit, le Saint-Esprit nous instruit, il est là pour nous instruire, pour nous apprendre, pour nous faire comprendre qu'il nous a donné le vouloir et le faire. Mais si nous ne sommes pas conscients, ça ne change rien, c'est quand même lui qui nous donne le vouloir et le faire. Mais pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être paisible, pour pouvoir être vivant, alors il nous faut être conscients de cela, parce que ça c'est la vérité. La vérité qui apparaît à ceux qui sont conscients de cela, c'est que Christ prolonge ses jours par nous. Les autres, ils se croient libres de faire comme ils veulent, d'agir ou non, leur libre arbitre et toutes ces histoires humaines, sectaires et compagnie. Ils sont toujours dans le monde de la dualité et tout. Bien sûr qu'on est dans le monde de la dualité. Bien sûr que Dieu dit « choisis le bien et pas le mal ». Bien sûr que... Pourquoi il nous dit ça? Pour que c'est le béaba. À partir du moment où nous avons choisi le bien, c'est parce qu'il nous en a donné le vouloir. Et si nous ne choisissons pas le bien, c'est parce qu'il ne veut pas. Vous allez me dire, mais c'est terrible. Non, ce n'est pas terrible. Je leur parle afin qu'ils ne comprennent pas. Voilà ce que la Bible nous dit. J'attire à moi les miens. Je suis venu pour mes brebis. Il y a d'autres bestioles, mais je ne les veux pas. C'est mes brebis que je veux. C'est mes brebis que je suis venu chercher. Alors réjouissez-vous, mes frères et sœurs. Mais rendez-vous conscient de ça. Rendez-vous conscient de ça. Les autres, il leur manque la conscience de la réalité, mais en fait, en vérité, ils ne veulent pas de la conscience de la vérité. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que Dieu ne leur a pas donné la volonté. C'est Dieu qui donne la volonté. Il nous donne, qu'est-ce qu'il nous donne? Le vouloir et le faire. Qu'est-ce que je vous dis? Ils ne peuvent pas la vouloir, cette connaissance, parce qu'ils n'ont pas reçu le vouloir. Parce que, non seulement, la Bible nous dit, parce que ça c'est toujours étonnant, dans Matthieu 18, 7, Jésus dit, il faut que des scandales arrivent. Pourquoi faut-il que des scandales arrivent? Ben, justement, pour que soit manifestée la bonté, la pureté, la merveille de Dieu. C'est pour ça que des choses mauvaises doivent arriver. Mais il n'y a pas que les scandales qui doivent arriver, il y a aussi des souffrances, des maux, des trahisons, des jalousies, pour que Dieu puisse se montrer juste, guérisseur, sauveur, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toutes ces choses mauvaises? Pour que la sainteté de Dieu paraisse où? Il n'y a pas besoin de paraître. Dieu, il sait très bien qu'il est saint. Dieu, il sait très bien qu'il est pur. Dieu sait très bien tout ça. Mais il faut que ça paraisse dans ce monde. Et ça ne peut paraître qu'en nous et par nous. Par ceux qui ont la conscience éveillée. Ici-bas, rien ne peut paraître sans que son contraire apparaisse. Le monde ne se gêne pas pour apparaître. C'est pourquoi vous avez une multitude ici de gens qui sont simplement des suiveurs, des gens qui murmurent, des gens qui se plaignent. Et bref, c'est des gens qui ne reconnaissent pas Dieu dans toute leur voix. Sinon, ils ne murmureraient pas. Est-ce que Joseph a murmuré? Il était arrêté, il était vendu, il était mis en prison, accusé injustement. Est-ce qu'il a murmuré? Est-ce qu'on trouve un seul mot qui pourrait faire penser qu'il a murmuré? Non. ils croient être en Christ, c'est vrai, ils le croient, mais ils vivent comme s'ils n'y étaient pas. Avec plein de doutes, plein d'incertitudes, plein de variations. Un jour bien, un jour pas bien. Alors comment ça va la vie? Oh ben c'est pas ça aujourd'hui. Mais non, c'est pas leur vie qui va pas. C'est les situations de leur vie. Mais ils mélangent, ils savent pas faire la différence. Vous voyez, je vous ai dit au début, ne vous y trompez pas. Et il y en a qui se trompent. C'est là ce qui crée leurs souffrances diverses. Et s'ils pouvaient seulement se dire... Quoi qu'il arrive, je ne me créerai pas de souffrance. Quoi qu'il arrive, je ne me créerai pas de difficulté. Si seulement ils pouvaient se rendre conscients d'être en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans ce qui est éternel, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas temporel. Mais non, ils ont les yeux rivés sur ce qui ne va pas. Ils ont les yeux rivés sur le négatif, rivés sur le temporel. Ils regardent en bas toujours. Alors ils souffrent et puis font souffrir les autres et puis c'est... Alors à petite échelle, ça peut être simplement dans la famille, au boulot, ou n'importe, mais c'est au niveau du pays, au niveau des nations, au niveau de tout. C'est le bien et le mal. Voilà. Alors il faut choisir notre camp. Nous qui sommes chrétiens, rendons-nous conscients de ce que nous sommes réellement en Jésus-Christ et de ce qu'il est réellement en nous. Sinon, c'est des belles phrases. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Là, précisément. Tous ces gens sont des pollueurs de l'âme, de leur propre âme et de l'âme des autres, de l'âme collective, humaine. Alors vous voyez ce qu'implique le mot croire, je vous parlais l'autre jour du mot croire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille en plus. Mais qu'est-ce que signifie croire? Croire, c'est aussi prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas, croire, on ne peut pas prendre conscience d'une chose dont on ne sait même pas qu'elle existe. Mais Jésus nous donne des phrases. Je suis en vous. Ça veut dire quoi? Quel est le résultat? Quelle influence cela a-t-il? Or, tous ces chrétiens, ils savent, parce qu'ils ont lu, qu'ils sont en Jésus-Christ. Et tous ces chrétiens, ils savent, parce qu'ils ont lu, que Jésus-Christ est en eux. Je serai en vous. Je serai avec vous. Mais savent-ils qu'est-ce que ça veut dire? Savent-ils quelle importance ces deux positions spirituelles comportent en elles-mêmes? C'est des phrases chargées d'une puissance inouïe, mes frères et sœurs. Eh bien, je vous le dis, non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et si je leur en parle, eh bien, ils disent que c'est trop compliqué. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qui est trop compliqué. Ce n'est pas ce que je dis qui est trop compliqué. C'est leur façon de vivre qui est trop compliquée. Et j'en veux pas de leur façon de vivre. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La vérité vous rendra libre. Moi, je veux être libre de cette complication de vie qu'ils ont. Eux, ils préfèrent être compliqués, avoir des vies compliquées, plutôt que de se poser la question, et si c'était vrai, cette parole-là? Non, cette parole, bien sûr, c'est vrai. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ne peuvent même pas croire ce que je dis. Parce qu'ils dorment. Maxime nous parlait tout à l'heure de quelqu'un de sa famille qui est à l'hôpital et qui dort, mais on lui pose des questions puis il répond. Ben voilà, c'est un peu ça. C'est des gens, ils sont un peu... C'est pas une église, c'est un hôpital. Ils sont dans une espèce d'hôpital où on vient, puis il y a le bon pasteur qui vient, puis qui met un pansement. De temps en temps, il leur met pour la température, une petite transfusion. Hein. Ils disent, on était encore l'autre jour avec Michon, on était chez des chrétiens, ils nous ont dit... Oh, il est malade, mais il est malade! Alors le pasteur est allé le trouver, il lui a dit: hein, tu vois dans quel état tu es? Ça fait 30 ans que tu n'as pas pris ton culte. Tu n'as pas pris ton culte. Vous savez ce que ça veut dire dans le langage pentecôtiste? Prendre son culte? Ça veut dire prendre sa dose, le pain et le vin. C'est ça? C'est ça? Quelle parole de consolation, n'est-ce pas, d'aller lui dire: ah ouais, t'es comme ça, il a une hémiplégie, ce pauvre homme. T'as pas pris ton culte pendant 30 ans. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, Dieu agit pour les réveiller, il fait des signes, des prodiges, des miracles, des choses pour qu'ils se réveillent. Mais ils font ça, vous savez, ils sont là, ils sont... Puis ils se retournent. Vous savez, quand on dort, puis qu'on se réveille tout d'un coup, puis on se retourne, puis on se rendort, ben c'est ça qu'ils font. Il y a un miracle qui se passe, ah oui, puis se retourne, puis continue à dormir. Mais c'est ça. Vous leur parlez. Moi, je vois leur expression. Moi, attendez, quand on me parle de quelque chose comme Alain vient de parler, là, moi, je suis, ça me fout des frissons, j'ai les poils des bras qui se soulèvent, j'ai pas fini d'en parler de cette histoire. C'est magnifique, c'est glorieux, je m'enthousiasme. Oui, mais Michel, t'as un tempérament méditerranéen. Non ! J'ai de la reconnaissance pour mon Dieu Tout-Puissant qui fait des si belles choses. Vous leur parlez d'un aveugle qui retrouve la vue ? Ah, ouais, ben, c'est bien, quelle heure c'est ? Passe-moi le sel. Rien ! Rien ! Ils dorment. Ah, par contre, il y a une chose qui les intéresse. C'est les fables. Ah, si vous leur racontez. Oh ben, ça serait simple. Il suffit que je mente. Hein? J'en vais mentir. Je vais raconter qu'au château Sanctuary, alors que nous sommes en train de prier, eh bien, des poussières d'or tombent sur nos bibles. On ne peut pas en récolter parce qu'il n'y en a pas assez. On ne peut pas vous les montrer, mais c'est vrai, il faut que vous me croyez. C'est une fable. Eh bien, ils y croient, eux. Ou alors, les dents en or qui poussent. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire? Ah, si. Ah, mais oui, c'est des choses extraordinaires qui soient. Il y a des gens, hein, Dieu leur fait pousser des dents en or. D'abord, c'est d'une laideur parfaite, les dents en or. C'est même plus à la mode. Dieu, il n'est plus à la mode. D'autres, pendant qu'ils prêchent, il y a des plumes d'anges qui tombent du ciel sur leur Bible. Mais c'est tellement intéressant, n'est-ce pas? Alors que les gens crèvent de faim, alors qu'il y a des malades partout. Non, non, le seul miracle que Dieu est foutu de faire, c'est de faire tomber des pluies de plumes d'anges. Qu'est-ce qu'on a à foutre des « Pardonne-moi Seigneur », mais vraiment. Ou alors, j'ai toute une liste là, les rires de Toronto. J'ai mis sur Facebook ça. Bon, n'allez pas sur Facebook chez Michel Janton, je ne réponds plus, je ne veux plus personne sur Facebook parce que ça me casse les pieds. J'ai plein de chrétiens qui viennent m'embêter, donc je ne veux plus Facebook. Mais quand même, pour ceux qui me connaissent et ceux qui sont avec moi là sur Facebook, vous pourrez aller regarder Kenneth Hagin. Moi, j'ai prêché chez Kenneth Hagin. C'est un homme de Dieu extraordinaire. À l'époque, je vous parle de ça, en 79, Mélodie n'était pas encore née. Il avait une école biblique de plus de 2000 étudiants et il leur enseignait les dons spirituels et il montrait comment marchait les dons spirituels. Il y avait des guérisons, il y avait des choses extraordinaires. Hein, chérie, on a vu, c'était fantastique. Fantastique, un homme de foi, fantastique. C'est T.L. Osborne qui nous l'avait présenté, c'est T.L. Osborne qui nous avait interprété alors que nous avions parlé là-bas et prêché là-bas dans cette école. Et puis là, il y a une vidéo, vous la trouvez sur, je vous donne le site, ça s'appelle le site abruti.com. Et vous allez cliquer sur religion et vous allez voir Kenneth Hagin, ce qu'il fait. Enfin, maintenant plus parce qu'il est décédé. Il tire la langue et il rit. Et tout le monde se met à rire et à glisser en bas des fauteuils et à se rouler par terre, à hurler de rire. Voilà, ça, les fables. Alors ça, ils aiment. Ça, ils adorent les fables, ces machins-là. Mais la vérité de la parole de Dieu, non, ils se laissent tromper par l'ennemi. Alors que la Bible dit, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Toute grâce excellente est un don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les conditions de vie, ce n'est pas ça qui est important, c'est la vie qui est importante. Mais ils ne veulent pas y croire. Ils disent, ça c'est ma vie, comme d'autres disent, c'est mon karma. Non, ce n'est pas ma vie. C'est des choses qui arrivent dans ma vie, qui passent, c'est passager. Et ça ne ternira pas ma vie, ça n'influencera pas ma vie, ça ne changera pas ma vie. Il n'y a qu'une chose qui peut changer ma vie, c'est Jésus et il l'a déjà fait. Amen. Quelle époque. Alors, de plus en plus, quand on écoute, quand on les regarde agir, on s'aperçoit que ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, une grande partie, c'est motivé par la peur. Par la peur. Ils ont peur, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'on vit encore pour très peu de temps, j'espère. Moi, j'ai fait le plus gros dans l'espace-temps. Mais choisissez-vous un espace, c'est-à-dire un lieu, un endroit paisible où vous n'êtes pas dérangé. Et puis prenez du temps, puisqu'on vit dans le temps. Servez-vous du temps, prenez du temps pour entrer dans la conscience de la présence de Dieu. Prenez du temps pour entrer dans la présence de Je suis, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis prenez du temps aussi pour rentrer dans la conscience de Christ en vous, qui veut se manifester par vous. Et puis ensuite, une fois que vous avez bien pris conscience de cela, eh bien vous vous levez et puis vous allez manifester celui qui est en vous, à savoir Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui a choisi de tabernacler dans votre corps. Amen. Plutôt que de simplement vous contenter de payer vos impôts, c'est très bien d'être gentil avec vos voisins, c'est très bien d'aller poser vos derrières dans les églises, c'est très bien, mais ce n'est pas ça que Jésus demande vraiment. Bien sûr, il vous demande de faire ça, mais ce n'est pas suffisant. Il veut que vous prolongiez ces jours. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas conscience que c'est vrai. Amen. Prenez conscience que c'est vrai. Et puis je vous assure, mes frères et sœurs, il ne suffit pas de le faire une fois. Il faut le faire régulièrement. Régulièrement. Parce que nous sommes encore dans un corps et avec des limitations qui font qu'on se fatigue. Alors on a besoin de se retrouver dans un endroit tranquille, paisible, pour pouvoir reprendre de nouveau de temps en temps conscience de la présence de Dieu en nous et de notre présence en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie pour que ces choses aident mes frères et sœurs. Et s'ils sont pris dans ce tourbillon de fables stupides, je te demande, mon Dieu, de les délivrer par le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient délivrés de cela et qu'ils viennent maintenant sonder les Saintes Écritures pour voir ce qu'ils ont à faire, ce que tu leur demandes de faire. Merci Seigneur Jésus de nous aider, nous-mêmes ici, à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans le pain, le vin, toutes ces choses sacrées. Merci Seigneur de nous bénir dans ce que nous avons reçu et de nous permettre de continuer à le faire, d'avoir la santé pour pouvoir continuer à le faire, d'avoir les finances pour pouvoir continuer à le faire. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus de permettre que quelques personnes soient éveillées grâce à ce message. Bien sûr un peu secouées dans leur sommeil, mais éveillées et qu'ils se tiennent éveillées par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.